France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il est très élégant, il est britannique, il faut dire. Il est né en 1922. Les spectateurs jeunes, et pas nécessairement cinéphiles, pensent peut-être que sa carrière a commencé à la fin des années 90 ou au début des années 2000 avec Le Seigneur des Anneaux ou avec Star Wars. Les spectateurs plus âgés et cinéphiles, ceci compense cela, savent que cet homme, très élégant, très britannique, peut être aussi très transylvanien ou transsylvain, comme l'on veut. Et très cruel, très amateur de sang, pourvu que l'action se déroule la nuit et qu'il n'y ait pas trop d'ail dans les parages. Oui, pour les cinéphiles attachés au passé, Christopher Lee, c'est bien Dracula. Dracula, prince des ténèbres, Dracula et ses cauchemars, Dracula et les femmes, Dracula et ses cicatrices. Mais Christopher Lee, c'est aussi la créature de Frankenstein. Christopher Lee, le 1er décembre 1998, était au menu de Mauvais Genre chez François Angelier.
Pas d'erreur, c'est Mauvais Genre. Mauvais Genre qui s'aventurera ce soir au tréfonds des salles les plus obscures, comme le gothique où Yann, le héros de Cinéterre de Michel Pagel au Fleuve Noir, actionne un singulier projecteur. Jean-Daniel Breck l'a testé pour nous. Les salles d'Hollywood Boulevard où rôde Tommy Post, vedette du Crépuscule des Stars de Robert Bloch en 10-18, une lecture de Jean-Yves Bocher. Et l'Eros, où les personnages de Salles Obscures de Tim Lucas, paru chez Terror Pocket, visionnent de bien vertigineuses bobines, une lecture de Martin-Pierre Baudry. Et puis l'invité ce soir de Mauvais Genre est une voix tout à la fois sépulcrale ou caressante, funèbre ou attendrie. Cette voix, c'est celle de Christopher Lee. La dernière grande icône du cinéma fantastique nous a accordé en juillet dernier un long entretien, entretien où il évoque ses rencontres, parle de ses amitiés et délivre sa vision du cinéma et de la peur. L'essentiel de l'entretien sera diffusé demain sur France Culture dans Ciné Club entre 10h30 et 12h et je vous propose d'en découvrir ce soir deux extraits. Dans le premier, Christopher Lee, qui fut élève du collège d'Eton, y rencontra, il y était censeur, l'un des maîtres anglais de la littérature de terreur, l'écrivain Montagro James. La lecture de ses œuvres a contribué, plus qu'aucune autre, à sa conception dramatique de la peur et de l'épouvante. Christopher Lee.
J'adorais beaucoup les histoires d'aventure, et j'aimais beaucoup naturellement les histoires du fantastique, parce que, comme vous le savez bien, j'ai fait la connaissance de M.R. James, qui, quant à moi, qui a écrit les romans les plus effrayants, parce que c'était un homme avec un talent immense, un académicien, on dit, et puis tout ce qu'il a écrit, c'était classique, et tout d'un coup, une phrase qui vous a effrayé comme ça, effrayé. Je me rappelle bien que c'était un homme assis, pas très grand, un peu pâle peut-être, on peut dire la peau d'un académique, si vous voulez, qui passe la plupart de leur vie à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et puis un peu comme l'ivoire, si vous voulez. Il a parlé d'une voix très douce. Il était extrêmement poli, charmant. Il a parlé comme ça, un peu lentement. Il n'a pas haussé la voix du tout. Et puis, il me posait des questions comme ça. Ce monsieur qui a écrit, c'était vraiment effrayant. Vous savez que l'histoire de Count Magnus, du Comte Magnus, je n'oublierai jamais parce que ça se passe en Suède. Un pays que je connais très bien, très très bien. Et puis, il y a des paysans dans l'histoire qui sont assis. Ils buvaient en auberge. Ils étaient des paysans tout à fait normaux. Et l'hôte a dit encore un verre, monsieur, etc. Tout à fait normal. Et puis, à un certain moment, il y avait du silence. Je pense que j'ai entendu un cri, un son de loin, un son haut et perçant, et après, le son d'une grande porte qui se fermait. Boum ! C'est tout. C'est tout. Et voilà. Je vous ai dit que c'est très important, sans doute dans notre métier, et j'ai dit mille fois dans le monde entier, c'est ce que vous ne voyez pas qui est beaucoup plus effrayant de tout ce que vous voyez. C'est Hitchcock qui était le maître de tout ça. Il n'a rien expliqué. Il vous a montré quelque chose, mais c'était vous, le public, qui est obligé d'utiliser votre imagination. Ne montrez pas tout. Laissez au public. C'est ça qui m'a dit Boris Karloff. Laissez au public. Ne montrez pas tout. Parce que si vous laissez au public, le public va inventer quelque chose beaucoup plus effrayant que tout ce que nous pouvons présenter. C'est vrai. Alors, on peut dire que en lisant les romans de M.R. James, quand je suis devenu comédien, surtout dans certains rôles et dans certains films de fantasy, je suis persuadé, et je sais, je ne suis pas persuadé, je sais 100%, et je dis tout le temps, imaginez, j'ai dit au public, ne montrez pas tout, je dis aux producteurs, aux metteurs en scène, et je dis aussi, comme comédien, ne montrez pas tout, laissez à l'imagination du public. Ça vient d'M.R. James.
Quelques précisions sur M.R. James, comme dit Christopher Lee, Jean-Daniel Breck.
Ah ben Christopher Lee a pratiquement déjà tout dit. Montag Roy James était le maître de la ghost story insidieuse qui, sans jamais élever la voix, faisait dresser les cheveux sur la tête de ses lecteurs. Et il y a quelques années, est parue en France une intégrale de ses contes fantastiques qui, si je ne me trompe, Jean-Yves Bauchet me contredira peut-être, est malheureusement épuisé.
Jean-Yves Bauchet ?
Même assez difficile à trouver, c'était paru chez Néo.
Donc à rééditer, auquel cas nous en parlerons, évidemment. En confiant en 1990 à Christopher Lee le rôle du bourreau révolutionnaire, le cinéaste Robert Enrico n'a pas cru si bien faire. En 1939, en effet, il avait 17 ans, Christopher Lee a assisté, un parmi la foule, à la dernière exécution capitale publique en France, celle de Weidmann. Christopher Lee.
Il a assassiné 5, 6, 7 femmes, je crois. On dirait aujourd'hui serial killer, je crois. On l'appelait l'assassin des boîtes, je pense. Je ne me rappelle pas très bien. Mais un jour, il y avait un journaliste américain qui s'appelait Webb Miller, qui est mort depuis longtemps, qui a écrit un livre, « Je n'ai pas trouvé la paix ». Et il était ami de ma famille, de mon beau-père et de ma mère. Et j'étais à Paris. C'était juste avant le début de la guerre. Juin ou juillet 1939. J'étais en train de rentrer en Angleterre de la Côte d'Azur. Et puis, j'étais obligé de passer un jour à Paris, ou deux jours, je ne me rappelle pas. Et j'avais cette lettre. Si tu vas à Paris, m'a dit ma mère, tu vas appeler ce monsieur, il est ami, c'est un journaliste très intéressant, il va te montrer des choses intéressantes. c'est ça qu'il a fait. Et puis, alors, je l'ai appelé, il a dit, oh, bon, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train de rentrer en Angleterre. Bon. Et tu restes combien de temps à Paris? J'ai dit, un jour, deux jours. Alors, oui, c'est très bien, parce que... Tu viens avec moi assister à un spectacle. J'ai dit, mais quel spectacle? Ah, ça c'est... Tu vas voir. C'est à 5h, 6h, 7h du matin, je ne me rappelle pas. Je dis, mais pourquoi à 7h? Oh, c'est nécessaire, tu vas voir. Tu vas voir que, comme elle est la vie, comme elle peut être la vie, et comme il se porte certains gens, et comme ils sont, il faut que tu l'apprennes maintenant, quand tu as 17 ans, comme adolescent, parce que si tu vois comme ils sont, comme ils peuvent être, je ne comprenais rien du tout ce qu'il disait, vous savez. Nous sommes allés à Versailles. Je dis, à Versailles? Versailles? Le palais? Non. Non. Et puis, nous sommes arrivés, j'ai vu une immeuble très grande, massive. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ah, oh, c'est le prison de Versailles. Je dis, prison? Nous allons en prison? Non. Nous restons ici. Et il y avait une foule d'hommes, de femmes, etc. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, parce qu'il était journaliste, il avait un permis, une carte. Alors, on l'a laissé passer avec moi. Et tout d'un coup, je n'oublierai jamais, on a traversé la foule, et tout d'un coup, on est arrivé, et voilà, la machine. Naturellement, je savais tout de suite qu'est-ce qui se passait parce que, naturellement, à ce moment de ma vie, j'ai beaucoup lu de la Révolution française. Je savais qu'est-ce que c'était. C'est la veuve rouge, la machine, Louison, Louisette, la guillotine. Je dis, mon Dieu, etc. Je peux pas. Mais bon, je pars. Oh, tu peux pas. Tu peux rester ici. Et à ce moment-là, alors, les portes s'ouvraient du prison. Il est sorti, chemise blanche, pantalon. Je crois les pieds nus, je ne me rappelle pas très bien, mais je crois. Et les mains ligotées, la chemise déchirée, avec un homme sur chaque bras, très vite. Et il y avait des gendarmes partout, et des avocats, je suppose, et d'autres personnages. Et puis il y avait un qui tenait... Ouais. Il y avait deux messieurs qui attendaient à côté de la machine. Un monsieur, pas petit, mais pas grand, qui était sans doute des fourneaux, on dit des fourneaux, monsieur de Paris. Et à côté de lui, je pense, un autre qui était, je crois, André Obrecht, qui était devenu le bourreau après des fourneaux. Deux. À côté déjà, en place, tout était arrangé. Il avait le panier, il avait la bascule, la lunette, tout ça, l'alarme, tout ça, incroyable. Et puis, heureusement, j'ai pas vu. J'ai tourné la tête, mais j'ai entendu la descente de l'alarme. Parce qu'il y a du bruit, vous savez. Et puis, boum. Peut-être c'est l'imagination, je sais pas. Je ne sais pas. Je n'étais pas dans la direction où tombait la tête, où il éternuait dans le panier. C'est ça qu'on disait. Hein. Et puis, l'autre, je crois que c'était Dobrecht, s'approchait de la tête et l'a prise dans les mains. Ça, je ne regardais pas. Je ne pouvais pas. Et puis, quand je regardais de nouveau... Le panier est parti et ils étaient en train de démonter la machine. Mais quelle expérience! Et vous savez, j'ai les photos de tout ça qui m'ont donné les gens à Paris Match. Horreur! J'ai pas vu la tête décoller, on dit. Oui, précisément, j'ai pas vu. C'était à l'autre côté. Heureusement, parce qu'il ne criait pas, il ne disait rien du tout. C'était tellement vite. Bascule, pssst. Les lanniers pour les jambes, et un aide qui tenait en place les jambes, un grand lanier sur le dos et les épaules, un autre aide qui tenait en place, qui regardait la lame, je me rappelle, qui regardait. Et au moment précis, le petit, parce qu'il n'était pas très grand, a été obligé de hausser la main comme ça pour la manette. Et puis après l'autre, qui n'était pas là, mais qui approchait d'un autre côté et qui a pris la tête. Et ça, je n'ai pas vu. Mais vous savez comme il était appelé, ce monsieur, qui a pris la tête? Le photographe. Vous savez pourquoi? Parce que, en général, vous savez, il était là. Et pour empêcher le condamné de faire des mouvements qui peut-être empêcheraient la lame tomber tout droit, on a pris par les cheveux. S'ils étaient chauves, par les oreilles. Quelle histoire!
Deux extraits donc d'un long entretien accordé en juillet de cette année par Christopher Lee à François Rivière, Gilles Ménegaldo et moi-même, et qu'on retrouvera demain dans Ciné Club, l'intégralité de l'entretien entre 10h30 et 12h. À la mythologie Hammer, dont Christopher Lee est le plus flamboyant symbole et l'ultime incarnation, eh bien on la trouve dans ce roman de Michel Pagel, Jean-Daniel Brecq, Cinéter, roman dont vous nous lisez un extrait.
L'homme se retourna d'un bloc. Âgé d'une quarantaine d'années, semblait-il, il avait un visage allongé, aux lèvres fines, dont les traits les plus remarquables étaient les yeux brûlants qui se posaient sur l'arrivant, tels deux braises rougeoyantes. Alliés à la prestance naturelle de leur propriétaire, qui eût été fort séduisant s'il n'avait été aussi terrible, il lui conférait une allure de bête sauvage, prête à bondir sur sa proie. Terrassé par ce regard, Igor tomba à genoux et joignit les mains. « Pardon, maître !» s'écria-t-il. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Mais la fille, elle n'était plus dans sa chambre. La servante que j'ai vue, elle m'a dit que des gens étaient venus la chercher. Des inconnus, maître. Il paraît qu'ils sont tous descendus au labo pour fabriquer des castors. Une grimace hideuse déforma le visage de son interlocuteur, dont les lèvres s'entr'ouvrirent pour dévoiler des canines proéminentes.
Alors Jean-Daniel, vous nous devez quelques explications sur l'univers de Cinéter inventé par Michel Pagel.
Eh bien, cet extrait restitue parfaitement l'ambiance de ce roman, qui est un mélange de terreur jubilatoire inspiré par les films Hammer et épicé d'une sacrée dose d'humour. Michel Pagel imagine en effet que quelque part dans le cosmos, un univers parallèle existe, qui est l'univers imaginé par les cinéastes de la Hammer. Un univers où on retrouve évidemment Victor Frankenstein, et son fameux complice Igor, que nous avons retrouvé dans cet extrait.
Mel Brooks.
Le comte Dracula, et puis bien évidemment le professeur Van Helsing. Et le héros de ce roman, Yann, un jeune homme tout à fait ordinaire, sauf qu'il est pris de passion pour les films de la Hammer qu'il découvre dans un cinéma du quartier latin, va se retrouver projeté dans cet univers de Cinéter, bien évidemment parce qu'il lui faut sauver une jeune fille en détresse. Et il va y retrouver, comme je l'ai dit, Frankenstein, alors Victor Frankenstein, qui est devenu, sinon le maître du monde, du moins le maître de la France et de l'Angleterre, Alors, par un curieux rapprochement...
Ça évoque un livre dont on a parlé récemment.
Tout à fait, ça évoque Anno Dracula de Kim Newman. Il a lui aussi épousé la reine Victoria pour mieux assurer son emprise sur le Royaume-Uni. Et puis, il est en butte aux agissements du comte Dracula, qui, lui, de son repère en Transylvanie, veut évidemment devenir le maître du monde, lui aussi. Alors, l'héroïne dont Yann est tombé amoureux, et qui, elle, est née à Cinéterre, puisque si sa mère était aussi une servante qu'on a sans doute aperçue dans ce film de la mère, son père, lui, était un homme de notre monde qui s'est retrouvé projeté dans Cinéterre. Donc l'héroïne est enlevée. Pourquoi ? Parce qu'elle sait comment passer d'un univers à l'autre. Et puis elle maîtrise pas mal de choses sur notre univers. Elle connaît bien des choses. Comment notamment fabriquer des castors, ou plutôt des passeports, bien entendu. Et Yann va la suivre. Il va se retrouver à Paris, bien évidemment, puisqu'on passe d'un univers à l'autre, mais on se retrouve dans le même lieu. Il va réussir à gagner Londres, aidé par un jeune noble un peu fou qui s'appelle Edmond. Edmond qui va lui, à son tour, tomber amoureux d'une sorcière. Tout ce petit monde va se batailler contre Victor Frankenstein. Les jeunes filles vont être enlevées par le comte Dracula, etc., etc. C'est une tentative ludique, on peut dire, de restituer l'univers de la Hammer. Avec les anglo-saxons, on dirait la langue dans la bouche. Nous, on dirait un peu une bonne dose de clin d'œil. Et en même temps, beaucoup de respect pour cette mythologie.
Martin Pierre Baudry.
Oui, d'autant que les vrais acteurs du livre, ce n'est pas tellement Dracula, Frankenstein ou Mircala, mais c'est plutôt Christopher Lee, Peter Cushing et la belle Ingrid Pitt.
Tout à fait. Hein, ils sont. On a reconnu Christopher Lee dans l'extrait que je vous ai lu. Peter Cushing, lui, déconcerte un peu notre héros, puisqu'on sait bien que Peter Cushing ne se limitait pas à un seul rôle dans la mythologie de la mer, je n'en dirai pas plus pour gâcher la surprise. Christopher Lee, lui, peut-être peut-on le reconnaître dans le monstre de Frankenstein bien pitoyable qui apparaît dans une scène, mais
demain, Christopher Lee... Plus de renseignements demain matin.
Christopher Lee, c'est bien entendu Dracula, Igor, qui est-ce qui a interprété Igor ?
Alors, Igor n'a pas...
Il y a un clin d'œil à Mel Brooks, non ?
Oui, peut-être, pour l'humour.
Oui.
Mais en fait, Igor dans la mer, il y en avait pas mal, oui, mais voilà. Ce n'était pas Marty Feldman, quand même.
Non. Ce qui est intéressant, c'est que bon, à la base de ça, il y a une utopie scientifique. C'est cette lentille pétrie d'un sable particulier qui sert à passer de ce monde-ci dans cet autre monde qui est celui de la Hammer. Mais il y a une petite phrase qui me semble bien résumer l'intérêt du livre de Pagel. Ce qui est vrai, c'est ce que je vois. À force d'avoir vu tous ces films, effectivement, les personnages se décrochent de l'écran et s'incarnent véritablement. C'est plutôt une espèce. C'est entre la fiction scientifique et l'utopie.
Oui, c'est autant de la magie que de la science, puisque pour vouloir passer d'un univers à l'autre, eh bien, il faut voir la porte. Et c'est pas donné à tout le monde. Il faut un certain effort de concentration. La belle Mircala réussit à passer dans notre monde pour enlever la jeune Marion. Et un peu plus tard, notre héros Yann, lui, s'il est tout à fait prêt à se rendre dans tel endroit de Londres, parce qu'il sait très très bien que la plupart des films de la Hammer se terminent dans des lieux bien précis, donc il sait comment passer d'un monde à l'autre. Les autres personnages sont un peu déconcertés. Le professeur Van Helsing, pour une fois, se retrouve muet de saisissement.
Alors, Cinéterre de Michel Pagel au Fleuve Noir, dans la collection SF Metal. On peut signaler également, Jean-Daniel Breck, une édition de la Comédie Inhumaine, dont les volumes étaient épuisés, et qui reparaît là dans la bibliothèque du Fantastique, ô combien précieuse, en un seul volume.
Tout à fait. Deux romans, Sylvana et le Diable à quatre, et puis plusieurs nouvelles. Quatre réunies dans Désir cruel, plus deux nouvelles qui étaient inédites en volume. Rappelons que nous avions reçu Michel Pagel en début d'année pour Nuées ardentes, un roman qui s'inscrivait également dans le même cycle. Il faut espérer que ce gros volume, avec une superbe couverture de Philippe Joselon, il faut le souligner, n'est que le premier d'une série.
Alors remontons le temps et puis partons vers Hollywood, l'Hollywood à la fois des années 30 et en même temps cet Hollywood qui passe de la période muette à la période sonore, la naissance du cinéma sonore, cinéma dont a la nostalgie Tommy Post, le héros du Crépuscule des stars de Robert Bloch. Alors Jean-Yves Baucher, là, il n'y a pas d'univers parallèle, l'univers du cinéma, il est bien là. Mais il y a deux univers cinématographiques, l'un qui triomphe et l'autre qui s'évanouit, c'est l'univers du sonore et l'univers du parlant.
Oui, alors on est complètement
la leçon de ce livre.
Laurent, moi, est même complètement dans l'univers du muet. Le parlant arrive à la fin comme sonnant comme la fin de cet univers, quoi. Je voudrais juste rappeler d'abord un petit peu qui est Robert Bloch pour les quelques rares auditeurs qui ne le connaissent pas encore. C'est un auteur.
On a les noms.
De nombreux romans et nouvelles dans le policier, dans la science-fiction, dans le fantastique. Citons évidemment Psychose, Les Contes d'horreur, La Nuit de l'Éventreur, etc., etc. Le Crépuscule des Stars est un roman, je dirais, un peu à part dans l'œuvre de Robert Bloch, puisqu'il ne se rattache à aucun des genres, tout en mêlant comme ça plusieurs, tout en donnant un peu l'esprit de certains de ces genres, notamment le fantastique et le roman policier. C'était paru aux éditions PAC à la fin des années 70, dans la collection Red Label, qui était dirigée par François Guérif. C'était réédité en 10-18 à la fin des années 80, mais c'est malheureusement un roman qu'on a du mal à trouver actuellement, puisqu'il est totalement épuisé.
Donc à rééditer.
À rééditer. Le livre raconte l'ascension d'un jeune homme très ambitieux, Tommy Post, dans le milieu du cinéma à Hollywood dans les années 20. Le héros commence un petit peu comme un grouillot des studios qui porte les paquets, qui va porter les lettres, qui va porter les scénarios aux stars. Et puis, grâce à une opportunité, il commence à faire des intertitres, justement, pour ses films muets. Puis il devient scénariste et rentre dans ce monde totalement fou de la grande époque qu'on a appelé l'âge d'or d'Hollywood. Le roman tout entier est un hommage à cette époque. On sent que Bloch, pour lui, le cinéma, c'est le cinéma muet. La grande époque du cinéma, c'est le cinéma muet, le cinéma parlant. En tout cas, c'est ce qui ressort du livre, est un petit peu la fin du cinéma, on pourrait dire. On croise à l'intérieur du roman, comme ça, en filigrane, derrière les personnages principaux, on croise aussi bien Lon Chaney que Douglas Fairbanks, que Buster Keaton, Chaplin et beaucoup d'autres. La partie policière elle-même du roman est assez ténue, en fait. C'est plus un roman initiatique et un roman sur un milieu comme ça. Il y a tout de même une petite partie policière qu'on découvre vers le milieu du roman, parce qu'en fait, le héros, Tommy Post, est un personnage qui n'a pas d'origine, qui ne connaît pas ses parents, donc de père inconnu, et qui va, à un moment donné, découvrir un petit peu, résoudre l'énigme de ses origines, une énigme qui sert un petit peu de pivot central pour la trame du roman elle-même. Alors cette époque du cinéma muet, cette grande époque d'Hollywood est décrite comme une sorte de rêve éveillé que vivaient toutes ces stars, les extravagances les plus folles. Et on connaît toute l'histoire des Fatty Arbuckle et autres Douglas Fairbanks, Mary Pickford.
Hollywood Babylon.
Voilà, Hollywood Babylon.
Kenneth Anger.
Parmi les personnages principaux, que ce soit les réalisateurs, les scénaristes ou les acteurs, on découvre des caractères qui sont très proches de gens comme Eric von Stroheim, Bela Lugosi, ou même Lon Chaney, qui sont en fait un peu les clés des personnages qui apparaissent comme ça qui donnent un petit peu la réplique à Tommy Post dans le roman. D'ailleurs, l'un d'eux qui ressemble étrangement, qui est une espèce de mélange entre Lon Chaney et Bela Lugosi, donne un petit peu une dimension très très grand guignol au roman. C'est un acteur qui s'appelle Karl Drews dans le roman, qui a des origines balkaniques évidemment, qui joue dans des films d'horreur et dont on découvre à la fin du roman son enfance, une enfance qui est digne d'un scénario de Lucio Fulci, une enfance d'horreur.
C'est tout dire.
Voilà. Ce livre est une vision extrêmement nostalgique de ce cinéma muet, avec un aveu d'épilogue, enfin une sorte de quand le cinéma parlant arrive en 1929 pour Robert Bloch et pour le roman, pour le héros, c'est la fin du cinéma, c'est fini, le cinéma passe de l'usine à rêve à un produit fabriqué, bien calibré, mais un peu vide.
Donc autant la mythologie de Michel Pagel, c'est la salle de cinéma, la petite salle de quartier, là c'est plutôt les grands studios déserts, délabrés, avec leur décor à l'abandon.
Et puis la création de grands cinémas équipés en sonore, d'immenses comme ça usines, mais selon Bloch, selon un petit peu le livre, enfin toute l'histoire du livre, on finit par fabriquer des produits extrêmement bien faits, mais totalement vides et qui ont perdu cette espèce de magie qui faisait toute cette époque, qui faisait le cinéma muet. C'est d'ailleurs ce que souligne assez bien d'abord le titre français de ce livre, Le Crépuscule des Stars. Et puis cet extrait que je vais vous lire.
Donc un extrait de Crépuscule des Stars de Robert Bloch.
Le parlant était là, et il sonnait l'heure des règlements de compte. Adieu Jennings, Neeson, Langdon, Pringle, Billy Dove. Quelques-uns d'entre eux allaient s'accrocher et se maintenir encore un an ou deux, mais le rideau se baissait inexorablement. Adieu donc, John Gilbert et D.W. Griffiths, et les Bassing Beauties de Sennett. Bonsoir aux petites Wampa Girls, et aussi aux grandes dames, comme Paula, et Vilma, et Baklanova. Et salut à John Bowles, Warner Baxter, Lawrence Gray. Bienvenue à Tibet. Et déroulons le tapis rouge de la bande-son pour Ruth Chatterton. Une sérieuse augmentation de salaire pour Marie Dressler et Conrad Nagel. Une promotion spectaculaire pour les frères Barrymore. Et félicitations à Norma Scherer et à tous ceux dont la voix passe bien à l'enregistrement. Attention à ces films musicaux, ils vont faire un malheur. Allez tous voir et écouter Broadway Melody. On pourrait peut-être faire venir Wynn et Cantor et George M. Cohan à Hollywood. Ils n'ont jamais fait d'étincelle dans les films muets. Mais on va avoir besoin d'eux maintenant. Regardez donc les recettes que rapporte Al Jolson. Il paraît que Meyer offre un contrat à un présentateur du nom de Jack Benny. Qui sont donc ces quatre Marx Brothers dont le nom circule ? Hollywood avait disparu.
Voilà un extrait de cet hymne, la splendeur du cinéma muet hollywoodien, un extrait donc du Crépuscule des stars de Robert Bloch en 10-18, à rééditer d'urgence. Alors on va passer de la complainte nostalgique et de la grande déploration tragique, le muet n'est plus, le cinéma, comme le disait André Breton, est devenu muet en se rendant parlant, à justement une prophétie d'avenir, puisque pour certains, on peut voir dans les films dont on va parler maintenant, eh bien l'avenir c'est la vidéo, et la vidéo est prêchée comme une véritable religion. Pierre Baudry, avant de passer à la grande vidéophanie, à la grande prophétie vidéographique dont on va parler dans quelques instants avec les films de Ferrara et de David Lynch, ce roman, Tim Lucas, Salles Obscures, qui était paru et qui n'est plus disponible hélas, en Terror Pocket.
Oui, on aura vraiment fait tous les âges du cinéma fantastique, du muet, en passant par la Hammer, maintenant place à la vidéo, au mélange des genres, qui n'est plus tellement du fantastique, un mélange de policiers et de porno. L'année dernière, Dracula, le roman de Bram Stoker, fêtait son centenaire, le cinéma aussi, normal, ensemble, ils prennent vie dans les ténèbres, et avec Salles Obscures, Frauds Prockets en VO, Tim Lucas n'y rien moins que le livre du centenaire, néanmoins passé pratiquement inaperçu à sa sortie en France dans la collection Terreur des éditions Pocket, un livre qui en guise d'introduction s'offre une profession de foi pour le cinéma porno et les films du même genre ne peut pas être complètement mauvais. Bien mieux que les films soi-disant sérieux, les pornos avaient en effet un talent particulier pour rendre l'inanité que je rencontrais au cœur de la vraie vie. Le titre sur l'affiche était « Gorge perforée ». L'histoire, il n'y avait pas d'histoire. Car Gorge perforée n'est déjà plus tout à fait du cinéma. Le film aurait pu passer à la télévision, car tout y était suggéré. En cela, ce n'était pas vraiment un porno. Tout était réel, sauf ce qui s'y passait. Le metteur en scène avait un truc sur les gorges des femmes, non pas tellement la poitrine, les seins, mais sur la gorge, le cou. Et pour donner au public l'impression que ce qu'il regardait était tellement explosif, que la censure était intervenue massivement pour couper les scènes les plus chaudes, le réalisateur avait assemblé ses pellicules de manière hétéroclite, avec cet effet donc pour le spectateur, qu'il ajoutait plus de fois à ce qu'il ne voyait pas plutôt qu'à ce qui figurait réellement sur l'écran. Cette technique, cette espèce de cut-up cinématographique intensifiait l'avidité de l'œil pour absorber en fait les éléments qui passaient entre les coupes. En fait, dans Gorge perforée, on ne voit que deux mains anonymes qui pénètrent dans le champ visuel pour caresser le pouls vital, deux mains gantées de caoutchouc blanc. L'homme abaissa sa bouche jusqu'au creux pâle de l'épaule et saisissant un pli de peau d'entre ses canines. Pas d'erreur, c'était bien du hardcore. Dès lors, pour le narrateur-spectateur de ce film, il n'est plus qu'une obsession, vivre en dehors des salles obscures, justement, le plaisir cinématographique, et puis surtout le faire partager, parce que c'est toujours meilleur avec quelqu'un qu'on aime. S'ensuit donc, dans le roman, le compte-rendu clinique, et avec notamment une scène obligée se déroulant dans un hôpital qui nous montre que J.G. Ballard n'est pas très très loin et son alter ego cinématographique David Cronenberg non plus. Le compte-rendu clinique donc de la contamination du réel par le fantasme, une espèce d'épidémiologie du vice. Alors là, on retombe dans la grande tradition vampirique. Pendant que le film, parallèlement, poursuit sa carrière, il est commercialisé en vidéo sous le titre absolument ultra de Transylvania, mon amour. Il passe même à la télévision et donc le message se trouve démultiplié à l'infini pour devenir un véritable phénomène de mode, de mode planétaire. Et la narration du roman, elle, s'accélère à son tour pour devenir multiforme. C'est une sorte de docu-fiction hallucinée qui mêle des extraits d'interviews, de critiques cinématographiques et puis de talk show. Alors face à un tel film, le narrateur va partir dans la recherche quasi mythologique de ses origines, identifier d'une part son réalisateur, trouver ses références, son histoire, quelles sont les actrices, et puis surtout répondre à cette question lancinante, est-ce un snuff ou pas ? Avec ce constat doux amer que tout porno en soi est déjà un snuff movie.
A videotape. I found it outside on the steps.
Who's it from?
I don't know. There isn't anything on the envelope.
Say anything on the tape.
No, nothing.
I'll see what's on it.
Must be from a real estate agent.
Voilà, Transylvania, mon amour, où le sexe parfait, universel, mais anthropique, incestueux et stérile. Alors quel réalisateur pour oser cela ? Quel vampire derrière la caméra pour réussir ce que la fin de siècle dernière n'avait fait que deviner ? Je vous rappelle le sang, le beau sang, le cher sang, l'adorable sang que chantaient déjà Catulle Mendès et Bram Stoker parmi d'autres. Et à mon avis, là où le livre est absolument essentiel, c'est de montrer qu'aujourd'hui, la réalité est indéniablement plus folle que la fiction. Freud Sprocket, de même qu'un autre roman dont on avait parlé, L'enfant arc-en-ciel de Jonathan Carroll, de même que cinématographiquement parlant, Le Lost Highway de David Lynch et puis Le Blackout d'Abel Ferrara, qui sont deux remakes inavoués du Vertigo de Hitchcock, et puis d'ailleurs comme leur modèle, qui sont deux films qui jouent du fantastique mais sans jamais user d'un seul de ces éléments. Toutes ces œuvres, en fait, à mon avis, marquent la mort du fantastique traditionnel qu'incarnait, par exemple, Christopher Lee, avec lequel on a commencé cette émission. Pourquoi ? Eh bien parce que la vidéo aujourd'hui ne se contente plus seulement d'enregistrer le réel. Littéralement, elle façonne le monde à son fantasme. Et derrière cette interrogation sur l'image, derrière ce vertige, on trouve toujours la figure centrale du watchman, le vidéaste démiurge, ayant grâce à la touche enregistrement de sa caméra droit de vie et de mort sur ce qu'il filme, et capable tout aussi bien de remonter ou d'anticiper le temps grâce à l'avance et au retour rapide. C'est le Mystery Man au visage lunaire interprété par Robert Blake dans le film de Lynch, Lost Highway, et puis par Dennis Hopper, presque le même personnage, interprété donc par Dennis Hopper dans le film Blackout de Ferrara.
We're making Nana, almost finished with Nana, Miami. Too expensive for us, and we video artists, as we like to call ourselves, who are going to regenerate the world and pay for our own film videos, you know what I mean? Idiots that we are, freaks of the light, freaks of the light, freaks that record our own image, freaks that record our own image, man. Whoa, all right, you know, in that green card, huh? That green card gets you to the back room. That red card gets you in here. You sign your waivers at the door.
That blue card gives you access to the editing and to all the other rooms, man. And we got four live venues going at all times here, brother. The gold card, wow, man. The gold card can get you in bed. You're in the picture, brother. You're in the picture, or sister, however it comes down. Gold quarters. Hey, music.
Video, man. Yeah, video is the
future. Video is the future. Video. Future.
Tim Lucas raconte cette anecdote significative et lynchéenne en diable, celle de l'aveugle de Lubbock. Imaginez, sa femme l'avait trouvé dans son coin télé, vers 2h du matin, le slip baissé sur ses chevilles. Ses yeux avaient été consumés jusqu'à la racine, le rêve transformé en cauchemar. Regarder cette cassette, c'est comme de regarder un rêve fait par une espèce de dingue. Une fois commencé, il se met à mal tourner, et toi tu te mets à penser tu ferais peut-être mieux d'envoyer balader toute cette merde, d'éjecter la cassette, et puis voilà. En fait, tu peux pas. Parce que sur l'écran, les voilà tous les deux en train de remuer leur viande. Et au moment où le type commence à jouir, il se met à vibrer. Il vibre tellement qu'on ne voit même plus clairement sa silhouette. Et il devient tout rouge. On dirait qu'il brûle d'une espèce de fièvre, et ses omoplates commencent à s'agiter et à battre comme chez un papillon. Et il est rouge et vrombissant. Et puis ce type qui est avec elle, quand il s'arrête de vibrer, ce que tu vois, il se retourne comme s'il se rendait compte tout d'un coup qu'on le mate. Et quand il se retourne, ce que tu vois, c'est le diable en personne qui te regarde. Souvenez-vous un petit peu du porno entreaperçu dans Lost Highway, et puis des fugues psychogéniques du personnage principal. Eh bien, dans les deux cas, ce à quoi vous assistez, ce n'est pas un film. Et si c'est un rêve, c'est aussi une émission d'information. Juste pour finir et peut-être pour accentuer le caractère délibérément borderline de cette émission que nous avons commencé dans la naphtaline avec Christopher Lee, j'aimerais signaler que Tim Lucas était également éditeur-rédacteur de la revue Video Watchdog, qui est une revue consacrée à ce qui se fait de plus mauvais genre en vidéo, du trash au porno. Et puis de même signaler aussi qu'avant d'être un roman, Salles Obscures a d'abord été une tentative de bande dessinée, dont les premiers chapitres ont été publiés dans le magazine Tabou. Les deux premiers chapitres étaient réalisés par Mike Hoffman et le troisième chapitre dessiné par le dessinateur David Lloyd. David Lloyd qu'on connaît surtout en France pour être l'auteur de la série V pour Vendetta, dont d'ailleurs les éditions Delcourt devraient bientôt republier l'intégrale.
Il faudra également republier donc ces Salles Obscures de Tim Lucas qui étaient en 9156 du catalogue Terror Pocket et qui ne sont plus disponibles. Tim Lucas, Jean-Daniel Breck,
pas grand-chose à ajouter puisque Martin Pierre a fait le tour de la question. Moi, je dois dire que j'ai lu ce livre il y a quelques années de cela en anglais avant qu'il soit publié en France. Et c'est, je pense, un des grands romans d'angoisse des années 90. C'est véritablement un chef-d'œuvre qui a été salué à sa parution par pas mal de gens et qui c'est vraiment regrettable qu'il soit complètement passé inaperçu. Bon, et comme l'a dit Martin Pierre, déjà dans la pré-publication entre guillemets en bande dessinée, on sentait cette angoisse insidieuse qui vous fouillait l'âme. Et bon, faut dire que Tabou, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, était une revue de luxe qui bouleversait pas mal de tabous, justement.
Jean-Yves Bochet.
Vous dites qu'il est passé inaperçu quand il est paru. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est sorti aussi de façon assez confidentielle entre un James Herbert ou un Dean Cohn, c'est qu'en fait on n'a pas pu remarquer la qualité de ce livre. C'est une question que je pose.
C'est-à-dire que ce livre se prête peu en fait à une étiquette bien précise. Le titre lui-même, Salles Obscures, ne laisse pas présager de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Dans le quatrième de couverture, il est dit que c'est un petit peu l'année dernière à Marianne Bad, réalisé par Mario Bava. Ce qui est un peu too much, mais en même temps...
La rhétorique de quatrième.
Voilà. C'est un peu too much, mais en même temps, je trouve qu'il y a véritablement de cela dans le roman de Tim Lucas.
Surtout parce que la vidéo s'appelle Transylvania, mon amour.
Transylvania, mon amour, je dois dire que j'ai un faible pour ce film qu'on ne verra sûrement jamais, mais c'est bien dommage.
Alors une question que je vous pose à tous les trois, selon vous, quel type de... On a beaucoup étudié, lu, cité... analyser la mythologie qui est née du cinéma sonore et cinéma muet. Selon vous, quel type de mythologie va accoucher de la vidéo ? Parce qu'il y a une mythologie déjà de la vidéo, dont justement le film de Ferrara ou le film de Lost Highway serait encore une sorte de première approche. Jean-Yves Bocher.
Mais avant de parler de mythologie, n'oublions pas qu'on parle de vidéo là, mais on parle de vidéo sur des films qui sont sortis en salle avant. Donc c'est simplement le procédé là, c'est pas vraiment.
Moi, je parle des vidéos qui sont citées dans ces films, qui est un usage de la vidéo très particulier.
Voilà, ce sont des films cinéma, mais qui utilisent aussi la vidéo. À travers d'une part un principe du film dans le film, puisqu'on a des personnages qui sont des vidéastes et qui tournent des vidéos, mais qui utilisent aussi toutes les techniques nouvelles de la vidéo pour réaliser du cinéma. Et moi je pense que l'évolution en matière de narration cinématographique, c'est le cut-up. La vidéo permet ou donne plus de facilité pour faire des sauts d'images, des sauts de séquences sans aucune transition.
Oui, ben on a, annoncé peut-être un peu tôt la mort de la galaxie Gutenberg, parce que moi, ce qui me marque dans la vidéo, c'est qu'elle a un usage totalement, littéraire, au sens où on peut servir d'une vidéo comme d'un livre. On peut lire vite, on peut lire lentement, on peut s'arrêter, on peut remonter en arrière, alors que le cinéma interdisait cela. Peut-être qu'il y a le retour avec la vidéo d'un imaginaire littéraire, Jean-Daniel Breck.
Moi, je pense qu'il y a une autre dimension dans la vidéo qui la différencie totalement du cinéma, c'est que le cinéma est une expérience collective, du point de vue du spectateur, alors que la vidéo est une expérience individuelle. On peut regarder une vidéo chez soi tout seul, et donc je pense que ça se prête beaucoup mieux au fantastique, puisque une vidéo vampire... Pourquoi pas? C'est un peu Throat Sprocket, gorge perforée dans la version française.
C'était le titre
imaginé par Tim Lucas.
Jean-Yves Bocher.
L'ancêtre un peu de cette utilisation de la vidéo dans un film, c'était l'utilisation d'un film dans l'autre. L'utilisation d'un film comme instrument de meurtre, c'était Le Voyeur de Michael Powell.
Oui, mais Le Voyeur de Michael Powell, c'était une caméra utilisée comme un objet de meurtre.
Comme un objet de meurtre.
C'est pas l'image qui tue, c'est le trépied qui sert à fixer la caméra.
Il y avait toute une symbolique là-dessus quand même.
Martin-Pierre Baudry.
Oui, puis la vidéo, c'est maintenant le dernier refuge, j'y reviens, du porno. Donc c'est aussi l'endroit privilégié pour que se développe un certain genre de spectacle pour un certain genre de spectateurs.
Est-ce que la vidéo a été beaucoup traitée en science-fiction, Jean-Daniel Breck? On parlait de Jonathan Carroll. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une espèce d'inscription de la vidéo comme un objet narratif important?
À première vue, je dirais non. Non, je pense que par contre, les jeux sur ordinateur, sur console, etc., sont beaucoup plus présents parce qu'ils se prêtent davantage à des jeux sur... excusez-moi pour ce pléonasme, probablement redondant, à des jeux sur la narration. Quand vous jouez à un jeu sur ordinateur, vous avez affaire non pas à un récit linéaire qui va d'un début à une fin, mais une arborescence. Vous avez fait un mauvais choix, vous pouvez revenir en arrière. Donc le principe du jeu vidéo est très proche de la notion SF d'univers parallèle. Univers arborescent. La vidéo, à ma connaissance, ça a été très peu exploité par la littérature de SF.
Jean-Yves Bocher, pas de précision la vidéo et le polar?
Non, aucune, juste pour remarquer que les jeux vidéo, donc les jeux comme ça interactifs, servent maintenant à la base pour faire des films.
Jean-Daniel?
Et on essayait d'esquisser un peu ce que serait le futur. George Lucas a déjà commencé à le dessiner lorsqu'il a réédité il y a quelque temps la trilogie de la Guerre des Étoiles, une version un peu toilettée, un peu améliorée, etc. Et il a fait clairement comprendre que désormais les films ne seraient jamais figés. C'est-à-dire que pour justement attirer ce public de jeunes qui est friand de jeux interactifs, il fallait donner constamment quelque chose de nouveau. On pouvait pas se contenter de rééditer tel film, il fallait apporter des modifications, etc. Et si, quand même, je reviens sur ce que j'ai dit, une excellente nouvelle de Kim Newman, qui est un fan de cinéma et de vidéo, lui, une nouvelle de SF, il imaginait un tritureur qui refaisait des films en changeant les acteurs, grâce à tout ce qu'on peut faire avec les ordinateurs et le trucage sur vidéo.
Jean-Yves Bocher.
J'ai joué un peu réactionnaire, est-ce qu'on retombe pas un peu
jouer le réactionnaire, Jean-Yves.
Dans la problématique qui est posée dans le Crépuscule des Stars, justement, du cinéma muet qui perd de sa magie au moment où la technique de plus en plus importante arrive?
Eh bien, le débat est ouvert. Je vous rappellerai les ouvrages dont on a parlé dans ce mauvais genre d'aujourd'hui, voués aux Salles Obscures et à Christopher Lee. Michel Pagel, Cinéter, c'est au Fleuve Noir dans la collection SF Metal. Également la Comédie Inhumaine de Michel Pagel en bibliothèque du Fantastique Fleuve Noir. Le Crépuscule des Stars de Robert Bloch, c'était en 10-18-2017, c'est à rééditer. Et puis Tim Lucas, Salles Obscures, c'est en Terror Pocket, également à rendre de nouveau disponible. Les deux vidéos dont vous avez pu entendre des extraits, eh bien, de Blackout de Abel Ferrara, qui est disponible chez Film Office, et puis Lost Highway, qui est disponible chez TF1 Vidéo.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er décembre 1998.